Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Bonjour, c'est le choc en Allemagne. Pendant une dizaine d'années, la NSU, un trio néo-nazi, a commis des crimes racistes en toute impunité. Les services secrets sont sur la sellette. Au sommaire de cette édition également, l'arrivée de nouveaux migrants en Allemagne, de jeunes Européens bardés de diplômes. Ils quittent leur pays en crise. Et puis, cinéma pour terminer avec un film sur le Rwanda en compétition au festival de Mannheim, une manifestation réputée pour découvrir de nouveaux talents.
Le terrorisme d'extrême droite, c'est une honte pour l'Allemagne. La chancelière Angela Merkel, lundi dernier, au congrès de la CDU, le parti chrétien démocrate qu'elle dirige depuis près d'une semaine. C'est une véritable onde de choc à laquelle on assiste en Allemagne. L'Allemagne qui découvre en son sein une nouvelle forme de terreur d'extrême droite. Le scandale a commencé par ce que l'on pensait être un fait divers, la découverte le 4 novembre dernier à Eisenach en Thuringe, une région de l'Est de l'Allemagne, de deux corps dans un camping-car. Il s'agit de deux néo-nazis qui se sont suicidés. Ils venaient de braquer une banque, la police était à leur trousse. Quelques heures plus tard, à moins de 200 km, une maison explose. Beate Tschepe, la complice des deux hommes, se rend à la police. Il s'ensuit une série de découvertes macabre qui permettent à la police de comprendre l'insoutenable. Les trois complices appartenaient à un groupuscule jusque-là inconnu, la NSU pour Nationalsozialistischer Untergrund, la clandestinité nationale socialiste. Entre 2000 et 2006, la NSU a abattu 9 hommes, dont 8 Turcs, et une policière en 2007. Les Allemands sont horrifiés par ce que le magazine politique Der Spiegel a intitulé « La fraction armée brune ». Le président allemand Christian Wolff.
Nous tous, en Allemagne, nous sommes appelés à nous unir contre toute attaque extrémiste. Nous devons créer dans notre pays un climat qui interdit toute diffamation. La diffamation entraîne la violence.
Tout le monde se demande en tous les cas actuellement en Allemagne comment le trio néo-nazi a pu agir en toute impunité pendant une dizaine d'années. Les services secrets sont mis en cause, notamment à propos de l'utilisation à bon escient ou non de leurs informateurs infiltrés dans les milieux d'extrême droite. Kenan Kolat, le président de la communauté turque d'Allemagne, particulièrement visée par les néo-nazis, en appelle au sens civique des Allemands.
Je souhaiterais dans l'immédiat la création d'un sommet contre le racisme, que l'ensemble de la société condamne vivement la violence. Nous devons absolument réfléchir à la transformation de certaines lois pour rendre la xénophobie plus répréhensible. Et nous devons renforcer les programmes de lutte contre le racisme.
Dans l'immédiat, Angela Merkel a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Berlin a annoncé notamment la création d'un fichier centralisé sur les néo-nazis jugés dangereux et des enquêtes sur les bévues éventuelles des services de renseignement. On change de sujet à présent, même si le reportage qui va suivre concerne également les étrangers, mais heureusement cette fois de façon positive. Il est question des nouveaux migrants européens. Alors que les pays de l'Union sont de plus en plus nombreux à être touchés par la crise, l'Allemagne, elle, continue d'afficher une bonne santé économique. C'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de jeunes issus des pays en crise viennent tenter leur chance, en particulier à Berlin, la capitale allemande, où le niveau de vie est encore très abordable. Je vous propose d'écouter cette enquête d'Audrey Parmentier.
Dans un des cours d'allemand proposés par la Volkshochschule, l'université populaire de Berlin, les participants doivent écouter des conversations téléphoniques et répondre ensuite à quelques questions. Parmi eux, Maria, une jeune Espagnole installée à Berlin depuis quelques mois.
Je fais une formation de secrétaire pour pouvoir travailler ensuite dans un bureau. Mais d'abord, il faut que j'apprenne l'allemand. Après, je pourrais devenir secrétaire ou travailler dans l'administration, peu importe.
Sur les 14 élèves, 9 viennent de pays européens, une tendance à la hausse, comme l'explique Jens Höft, responsable des cours d'intégration à la Volkshochschule.
Actuellement, il y a beaucoup de jeunes européens, en particulier du sud de l'Europe, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce et de l'Italie. C'est très différent d'avant. Les participants ont un niveau d'éducation beaucoup plus élevé. Ils attendent davantage des cours, car la plupart d'entre eux maîtrisent déjà au moins une langue étrangère.
Turana, une grecque de 26 ans, a commencé l'an dernier à Berlin un master de grec moderne.
Ce master existe aussi en Grèce, mais à l'heure actuelle, il est très difficile de vivre là-bas. Donc j'ai cherché quelque chose à l'étranger. J'aimerais rester ici encore un an et après on verra.
Ces jeunes viennent donc étudier en Allemagne dans l'espoir de trouver un travail et les chiffres leur donnent raison. Selon l'Office fédéral allemand des statistiques, le taux de chômage des jeunes européens est passé de 15% en 2009 à 20% aujourd'hui. Mais les contrastes entre les pays sont énormes. 9,1% des jeunes Allemands sont sans emploi contre 46% des jeunes Espagnols. De son côté, l'Allemagne vieillissante tente de se présenter sous son meilleur jour pour attirer ses migrants d'un nouveau genre. Au mois de septembre, le gouvernement a notamment adopté une loi de reconnaissance des diplômes et des qualifications. Une loi qui, d'après Holger Kolb du Conseil des fondations allemandes pour l'intégration et la migration, pourrait améliorer la situation de nombreux étrangers.
C'est un sujet très sensible. Nous savons que plusieurs centaines de milliers de personnes vivent en Allemagne sans que leurs qualifications ne soient reconnues. Elles sont sous-employées. C'est un gâchis de capital humain.
Mais pour l'instant, la loi ne concerne que 350 professions. L'Allemagne va donc devoir continuer ses efforts pour faire venir la main-d'œuvre qualifiée qui lui manque, notamment dans les secteurs de l'informatique ou des mathématiques. D'après Jens Höft de la Volkshochschule, l'université populaire, Berlin pourrait servir de modèle en matière d'accueil.
Cette ville attire de nombreux Européens venus de tous les pays et tout est fait pour bien les accueillir. En général, ils trouvent rapidement un logement, les jeunes créatifs trouvent l'environnement nécessaire pour travailler en freelance, beaucoup de choses sont faites pour qu'ils se sentent bien.
Et ça marche. La preuve, Turana est sous le charme de la capitale.
Il y a des gens venus du monde entier, comme on peut le voir ici dans ce cours. C'est une ville très ouverte, très libre, où on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est la capitale la moins chère d'Europe.
Même s'ils ont tendance à augmenter, les loyers berlinois sont encore très abordables et la vie culturelle est elle aussi accessible au plus grand nombre. Autant d'atouts dont pourraient s'inspirer les autres villes allemandes si elles veulent faire venir les 300 000 travailleurs qualifiés dont le pays a un besoin urgent.
Les jeunes migrants à Berlin notamment, c'était un reportage d'Audrey Parmentier. On part au cinéma pour terminer avec le festival de Mannheim-Heidelberg, le deuxième plus vieux festival de cinéma en Allemagne après la Berlinale. Le festival de Mannheim est très particulier parce qu'il soutient surtout les réalisateurs qui ne sont pas encore connus. Mannheim a rendu célèbre notamment des cinéastes comme le Danois Lars von Trier ou le Canadien Atom Egoyan. Le festival présente cette année Kinya Rwanda, le premier long métrage du réalisateur d'origine jamaïcaine Eric Brown. Eric Brown vit aux États-Unis, mais il a travaillé comme volontaire au Rwanda. Dans Kinya Rwanda, il entrelace 6 portraits de Rwandais pendant et après l'horreur du génocide de 1994. Franciane Abassan est responsable des droits internationaux et elle défend en ce moment le film à Mannheim et elle présente également Eric Brown.
Il a fait ce qu'on appelle son Peace Corps. Il est allé en tant que volontaire travailler en Afrique et il a rencontré un jeune auteur qui lui a proposé de réaliser en fait un documentaire sur le Rwanda, un texte qu'il avait rédigé. En consultant les documents, Alric Brown a senti qu'il y avait matière à faire une fiction. C'était tellement riche de témoignages et d'images. Alric, qui avait déjà produit et réalisé plusieurs documentaires qui ont été primés, a vu qu'il y avait là une potentialité pour en faire un long métrage. Et là est parti son travail de réécriture avec cet auteur.
Alors c'est un film surtout aussi sur le travail de deuil aussi, hein, sur le génocide de 1994. Quel est un petit peu l'angle d'attaque? Parce qu'il y a d'un côté une histoire d'amour, mais il y a aussi tout un travail, on voit donc la population rwandaise dans les camps de rééducation. Sur quoi est le film exactement?
Le génocide rwandais sert en fait, sans minimiser ce qui s'est passé, de décor de fond. et pour montrer qu'à travers cette tragédie, six histoires ont pu s'entrecroiser. Et à travers ça, malheureusement, des mauvaises choses et aussi des bonnes choses. Donc, sur fond de génocide, on découvre en fait le sauvetage de ces imams et de ces chrétiens, de ces prêtres qui ont sauvé des Hutus, des Tutsis, des chrétiens, des musulmans, qui les ont cachés dans des caves des plus grandes mosquées de Kigali. Mais on découvre aussi une histoire d'amour toute simple entre cette jeune femme qui rêve que de sortir et d'aller faire la fête et qui pense pas une seconde que le simple gardien de sa maison pourrait tuer toute sa famille. Donc en fait, c'est toutes ces histoires qui s'entrelacent sur fond effectivement de génocide. Mais comme quoi la vie avait lieu. Les gens ne continuaient pas, ne se sont pas arrêtés de vivre parce que la vie était là, il fallait vivre. Mais voilà, après il y a eu des ajustements par rapport à ce qu'ils vivaient, donc se cacher, sauver sa vie. Donc on voit tout ça à travers ce film. Mais c'est là je pense que ce qui éveille la curiosité, c'est de voir qu'en fait, ça n'est pas arrivé comme ça d'un coup. C'est arrivé par vagues.
Oui, ce qui est très touchant aussi, c'est par exemple le début qui commence tout simplement par une partie entre jeunes.
Mm-hmm, tout à fait, tout à fait. C'est à travers cette boum qu'on voit effectivement que voilà, qu'ils s'amusent, qu'ils aiment faire la fête. On voit aussi une middle class. On découvre une middle class rwandaise. Ils ont des chauffeurs, ils ont des servantes, ils ont une vie assez aisée, une douce vie. Et on voit aussi que tout le monde n'est pas égaux devant cette vie, cette vie contemporaine rwandaise. Mais c'est vrai, on découvre le prisme démarre à travers une fête. C'est ce qui est un peu déroutant au départ, d'ailleurs.
Est-ce que les personnages du prêtre Bertrand et des mouftis et des imams qui s'engagent vraiment pour les populations, est-ce que ce sont des histoires vraies à l'origine?
Oui, ce sont des témoignages de survivants. Et effectivement, l'auteur a pu avoir les témoignages de ces prêtres qui ont participé au sauvetage et aussi de ces imams qui ont lancé la fatwa pour dire surtout aux musulmans de ne pas faire partie des massacres. Donc des musulmans qui soient Hutus ou Tutsis, donc des deux ethnies. Et aussi pour dire, si vous voulez, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons sauver. Nous pouvons vous aider, en tout cas.
Francienne Abassan, productrice et distributrice, Kinya Rwanda est en compétition actuellement au festival de Mannheim à Heidelberg. C'est en plein cœur de l'Allemagne jusqu'à dimanche. Et c'est déjà la fin de cette édition d'Allemagne Magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Deutsche Welle.